Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. Google, Apple, Facebook, Samsung, Huawei, ces noms-là vous sont connus. Vous savez que ce sont de grandes entreprises, qu'elles sont puissantes et que quand vous en avez les moyens, vous avez recours à ce qu'elles vous proposent pour organiser votre vie quotidienne. Vous savez aussi que de nombreux économistes étudient le comportement de ces compagnies riches et puissantes, très puissante, hyper puissante. Et on s'arrête sur ce mot-là parce que les entreprises hyper puissantes est le titre d'un livre publié aux éditions Odile Jacob et dont l'auteur François Lévesque est à notre micro aujourd'hui. Bonjour François Lévesque.
Bonjour Jean-Pierre.
François Lévesque, ce livre ne tombe pas de n'importe où. Vous êtes en effet professeur d'économie au sein de la prestigieuse École des Mines de Paris. Aujourd'hui, mondialisation oblige, on dit Mines Paris Tech, PSL Université. Et avec vous dans cette émission pour parler des entreprises, de ces entreprises, de leur contribution à la puissance des nations, un autre économiste. Bonjour Virgile Chassagnon.
Bonjour Jean-Pierre Boris.
Virgile Chassagnon, vous êtes professeur d'économie à l'université de Grenoble-Alpes. Vous y dirigez l'école doctorale d'économie. Plusieurs livres à votre actif, dont celui qui est le plus en rapport avec cette émission et qui date de 2018. Son titre est sobre, Économie de la firme Monde. C'est un livre qui est publié aux éditions de Box Supérieur. Au cours de cette émission, des reportages, bien sûr, nous avons rendez-vous avec Nicolas Roca à Séoul, en Corée du Sud, avec Abdullah Erali à Port-Louis, à l'île Maurice, et avec Anne Corpet dans l'état de l'Alabama, aux États-Unis. François Lévesque, j'ai donné tout à l'heure le titre de votre livre, Les entreprises hyperpuissantes, mais je n'ai pas donné le sous-titre Géants et titans, la fin du modèle global. Quelle est la différence entre ces entreprises géantes, ces entreprises titanesques, ces entreprises hyperpuissantes? Est-ce qu'il y a trois catégories ou une catégorie et deux sous-catégories? Comment est-ce que vous organisez ça?
Alors, il y a une seule catégorie, il y a les entreprises hyperpuissantes, mais au sein des entreprises hyperpuissantes, donc qui sont des multinationales superstars, c'est-à-dire qui ont des performances extraordinaires, des parts de marché évidemment extraordinaires. Je distingue d'une part, eh bien, évidemment, les titans, qui sont les plateformes numériques globales, donc les GAFA, les Google et autres, mais aussi
Amazon.
Les GAFA, mais oui, donc Amazon, Apple, mais aussi Netflix, Tesla, si on reste du côté du Grand Ouest américain. Mais les titans, ce sont aussi Alibaba, ce sont aussi les grandes plateformes globales chinoises. Donc les titans d'un côté, et puis ces plateformes numériques globales, et d'un autre côté, parmi les firmes hyperpuissantes, eh bien, il y a les géants qui sont les entreprises comme Ikea, comme Lego, qui sont dans des entreprises comme Airbus, ou comme Walmart aux États-Unis, qui sont des entreprises qui ne sont pas des plateformes numériques globales, mais qui sont des entreprises globales, qui sont ce qu'on appelait autrefois des multinationales. On hésite un peu à utiliser le mot est passé de mode. Donc, des multinationales qui peuvent être technologiques, comme Samsung, l'entreprise coréenne, mais qui ne sont pas des plateformes numériques globales. Voilà, ce ne sont pas les GAFA, mais dans la vie des entreprises superpuissantes, eh bien, il n'y a pas que les GAFA. Et c'est important d'élargir l'horizon à d'abord des entreprises chinoises numériques globales ou russes ou coréennes et puis ne pas oublier des entreprises extraordinaires par leur taille, par leur performance comme Ikea, comme Airbus, comme Lego.
Alors comme Walmart, François Lévesque, je vous interromps dans cette énumération. Les États-Unis, on va faire un peu d'histoire avec vous. Les États-Unis ont eu, dites-vous dans ce livre, la première hyper-entreprise et elle fabriquait des machines à coudre. Alors, ça peut paraître un peu prosaïque par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui.
La machine à coudre, donc cette entreprise, c'est Singer, l'ami sincère, Singer. Il y avait cette publicité autrefois de machine à coudre, et donc c'était un produit très technologique à l'époque. Donc on est au début du 19e siècle, et cette entreprise, eh bien, elle a réussi à développer ses machines et s'implanter sur le marché américain. Et puis, eh bien, elle s'est implantée en Europe, elle s'est implantée en Russie, elle s'est implantée en Asie. Et donc, on peut considérer que c'est, en tout cas, comme un très bon exemple des premières multinationales et des plus premières multinationales américaines qui partent à la conquête du monde avec un produit qui plaît aux consommateurs, et là qui était plus d'ailleurs les consommatrices, qui plaît aux consommatrices, qui a des performances importantes, qui a des coûts, des prix relativement plus élevés d'ailleurs que les autres producteurs de machines à coudre, mais un marketing d'une efficacité telle qu'on le connaît encore aujourd'hui, évidemment, le marketing à l'américaine.
Est-ce que ces firmes sont celles sur lesquelles vous travaillez, Virgile Chassagnon? Est-ce que ce que vous appelez, vous, Virgile Chassagnon, les firmes Monde, sont les mêmes entreprises que celles que décrit François Lévesque dans son livre?
Oui, oui, tout à fait. Il s'agit des mêmes entreprises. Le point important, et pourquoi est-ce que j'ai choisi donc de développer ce concept au début des années 2010, c'est que pendant très longtemps, on a eu effectivement cette idée, on la doit à un historien extrêmement brillant, voilà, Fernand Braudel, que nos économies étaient dominées par, en fonction des périodes, des grandes nations qui constituaient des économies mondes, c'est-à-dire des économies qui étaient autonomes, qui s'auto-reproduisaient de manière autosuffisante en dynamique, et qui donc perpétuer leur immensité et leur puissance. Aujourd'hui, cette logique-là, on ne l'a plus. On ne l'a plus pourquoi ? Parce qu'on n'a pas une seule nation qui domine le monde, on a plusieurs nations qui dominent le monde, mais aussi parce qu'on a désormais des firmes qui, en tant que telles, font partie des entités actives, c'est-à-dire des entités qui sont autonomes au niveau économique, qui composent l'économie monde. Pour preuve, c'est quelque chose qui a été rendu public par une ONG américaine. On s'est rendu compte qu'en comparant les données de fortune, donc des plus grandes entreprises en matière de chiffre d'affaires, de capitalisation, et en comparant les données de la CIA sur ce qu'eux nomment les revenus des grandes nations, eh bien, dans le top 100, on a 70% des entités qui sont des entreprises. Et Walmart est même très souvent dans le top 10, et on en a 30 qui sont capables, simplement, en termes de nations, de générer autant de revenus annuels.
C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui génèrent beaucoup plus de revenus que des États. C'est ça que vous nous dites, qu'on peut parfaitement comparer leur puissance financière.
Alors, il faut faire attention, hein. On ne peut pas comparer un PIB avec un chiffre d'affaires, dans la mesure où le PIB va retrancher de son calcul les consommations intermédiaires, tous les inputs, tout ce qu'on va utiliser pour produire. Donc ce qu'il faut, c'est regarder les revenus. Alors je vous donne très rapidement la méthodologie qui est assez opaque de la CIA, c'est quoi ? C'est de pondérer les valeurs ajoutées, donc les PIB, par le taux de prélèvement obligatoire des nations, et donc ça détermine un revenu. Et c'est ce revenu, en fait, qui est comparé au chiffre d'affaires, et quand on fait cette comparaison, on observe que dans le top 100, eh bien, les entreprises sont extrêmement présentes, et on a même une entreprise qui est dans le top 10, c'est-à-dire Walmart génère plus de revenus que la grande majorité des nations, y compris des nations très puissantes dans le monde.
François Lévesque, vous comparez ce que produisent ces hyper-entreprises il y a 40 ans et aujourd'hui, et vous nous dites dans votre livre qu'il y a 40 ans, il fallait 6000 entreprises pour produire 1000 milliards de dollars et qu'aujourd'hui, selon les critères qu'on prend, il en faut soit 2, soit 30.
Voilà, c'est-à-dire que soit vous ne tenez pas compte de l'inflation et à ce moment-là, aujourd'hui, pour produire ce milliard de dollars, eh bien,
au c'est 1000 milliards.
D'avoir besoin, c'est 1000 milliards, au lieu d'avoir 6000, il vous en suffit de 2. En revanche, si vous tenez compte de l'inflation, puisque l'euro d'aujourd'hui, évidemment, n'est pas égal à l'euro d'hier et le dollar non plus, il en suffit de 30. Donc la bonne comparaison, c'est on est passé de 6000 à 30, quoi. On est passé de 6000 à 30 entre la fin des années 70 et puis, 2020. Donc c'est simple, c'est un indicateur qui montre que les entreprises les plus grandes, eh bien, ont grandi encore et que les marchés se sont concentrés, qu'on a des entreprises qui ont des parts de marché de plus en plus élevées et qui réalisent des chiffres d'affaires de plus en plus grands. Ce que j'entends par les entreprises hyperpuissantes, pour donner quand même une idée concrète, ce sont des entreprises milliardaires, c'est-à-dire qu'elles réalisent au moins 1 milliard de chiffres d'affaires. Donc là, c'est le critère de taille, mais les entreprises hyperpuissantes sont forcément, dans ma définition, des entreprises efficaces, des entreprises profitables, des entreprises eh bien, qui l'emportent sur le reste du peloton parce que leurs produits sont plus, ou leurs services sont plus sophistiqués, sont plus attractifs pour les consommateurs, on possède des meilleures qualités ou tout simplement proposent des prix plus bas.
Alors voyons tout de suite un exemple d'hyper-entreprise ou de firme monde. On entrera dans les détails ensuite. Et pour ce faire, nous partons à Séoul en Corée du Sud, où les héritiers du fondateur de Samsung règlent en ce moment une ardoise de quelque 9 milliards de dollars de droits de succession. Après le décès en octobre dernier de Lee Kun-hee, ils sont contraints de vendre la collection de tableaux de maîtres, Picasso, Monet, Dali et on en passe, que l'homme le plus riche du pays avait accumulé. Lee Kun-hee pouvait se le permettre. Samsung pèse en effet à elle seule 20% de la richesse économique de la Corée du Sud, qui est la 12e économie mondiale. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Nicolas Roca à Séoul.
Impossible de passer à côté dans les rues de la capitale sud-coréenne. Hôpitaux, universités, téléphones portables, ordinateurs, l'influence de Samsung est visible à l'œil nu. Un succès qui a trois origines, selon Chin Yoo-suk, président du principal syndicat du groupe.
Tout d'abord, il y a le soutien du peuple. Les Sud-Coréens privilégient l'achat de produits de Samsung plutôt que d'entreprises étrangères. Ensuite, les exécutifs ont fait des choix judicieux en termes d'investissement. Et enfin, et c'est le plus important, le sacrifice massif des travailleurs de Samsung, ce sont eux qui ont fait l'entreprise que l'on connaît aujourd'hui.
Un miracle économique qui a eu un coût, mais l'omniprésence du chaebol, elle, a des conséquences directes sur l'organisation du pays. C'est ce que pense Park Sang-in, professeur de gouvernance économique à la plus prestigieuse université publique de Corée du Sud, la Seoul National University.
D'un côté, c'est une histoire à succès pour beaucoup de Coréens, mais d'un autre, cela implique un pouvoir très concentré autour d'une entreprise et autour d'une famille qui la contrôle. L'existence d'un pouvoir économique concentré nécessite des barrières, car la famille peut influencer les médias, la politique, les décisions de justice. Cela fausse le processus démocratique et, éventuellement, cela détruira la compétition et l'économie de marché.
Un constat pessimiste que ce spécialiste des chaebol pousse encore plus loin. Selon lui, l'État adapte même ses régulations au profit de l'entreprise. Dans son viseur, la loi controversée qui n'autorise pas une compagnie d'assurance à détenir plus de 3% des actions d'une autre entreprise. Mais la réglementation aurait été adaptée pour que l'actuel dirigeant Lee Jae-yong ou JY puisse garder le contrôle du joyau du groupe Samsung Electronics, une mesure éloquente quand il s'agit de déterminer qui, entre les politiques et les chaebol, influence l'autre.
If the insurance law is normalized, JY cannot control.
Si la loi sur l'assurance est normalisée, JY ne peut pas contrôler le groupe Samsung tel qu'il est maintenant, et Samsung doit changer sa structure. Si le président a la volonté de mettre en place ce genre de réforme, il peut le faire, mais cela ne s'est toujours pas produit.
Pour autant, le pouvoir judiciaire a condamné le dirigeant actuel du groupe à une peine de 2 ans et demi de prison pour corruption dans le scandale qui a emporté l'ex-présidente Park Geun-hye.
Comme on le sait, les deux derniers présidents de la République sont en prison pour des histoires de corruption en lien avec Samsung. Maintenant, c'est le moment pour nous de mettre des barrières, des limites aux pratiques illégales entre ces entreprises et la présidence de la République.
Paul Chino, journaliste indépendant aux cheveux gris, est un des cauchemars de Samsung. Il a révélé certains des scandales qui ont entraîné les ennuis judiciaires de Lee Kun-hee, le défunt PDG du groupe, mais aussi ceux de son fils. Des affaires qui pourraient laisser penser à une réponse ferme du pouvoir judiciaire face au conglomérat, mais pour lui, persiste un besoin de changement.
Les procédures doivent réellement être suivies. En Corée du Sud, les chaebol ce sont une partie de l'économie et le reste une autre. Avant, Samsung et les chaebol étaient au-dessus des lois. Mais si nous ne punissons pas Samsung pour les crimes qui ont été commis, alors on ne pourra plus du tout sanctionner les crimes en col blanc.
La pression est désormais du côté du président de la République, alors que les appels à la grâce présidentielle pour JY, le dirigeant de Samsung, se font de plus en plus insistants, car le monde fait face à une pénurie de semi-conducteurs et que l'entreprise est le 2e constructeur mondial dans le domaine.
Un reportage signé Nicolas Roca à Séoul. François Lévesque, est-ce que Samsung, vous l'avez évoqué tout à l'heure au début de l'émission, c'est un exemple parfait d'hyper-entreprise qui est à la fois un géant et un titan ?
Alors, c'est un exemple parfait de géant technologique. C'est un exemple parfait aussi parce que c'est un géant asiatique et depuis plusieurs décennies, on a assisté dans le monde à l'émergence de géants technologiques et de l'Asie. On pense toujours à la Chine, mais la Corée est un bon exemple et Samsung est un très bon exemple de ce qu'on appelle aussi le cercle vicieux des Médicis. Vous savez, cette famille florentine. Le cercle vicieux des Médicis, c'est que plus une entreprise devient puissante économiquement, plus son poids, son influence politique est grande, donc à travers les régulations par exemple, qui lui sont favorables, c'est ce dont parlait le reporter tout à l'heure, et puis, mais plus le poids politique est important, plus son influence politique est importante, eh bien ça retombe pour augmenter aussi sa puissance économique parce que, eh bien, des réglementations vont lui être favorables, et donc on a cette espèce de cercle, le pouvoir économique de l'entreprise, sa puissance économique, lui permet d'acquérir une puissance politique qui elle-même renforce la puissance économique.
On entendait François Lévesque dans ce reportage, un des interlocuteurs de Nicolas Rocca, dire que Samsung, finalement, ça pouvait être une menace pour l'économie de marché sud-coréenne. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, il y a les deux faces. Il y a les bénéfices et les coûts, les avantages et les désavantages. Il y a d'une part une entreprise Samsung qui est une formidable entreprise en termes de performance, en termes d'innovation, en termes de développement, c'est absolument incroyable. Sa force, notamment technologique, dans le domaine des semi-conducteurs, dans le domaine des téléphones portables, etc. Donc incroyable, formidable. Et ça tire l'économie, ça tire la croissance de la Corée, ça emploie des talents, voilà, il y a plein d'effets positifs pour la Corée et aussi pour le monde des consommateurs de Samsung. Et mauvais côté, c'est bien évidemment cette puissance économique. Eh bien, j'en parlais tout à l'heure, c'est aussi de la puissance politique, c'est aussi une façon de tenir et peut-être de menacer parfois la démocratie dans les pays. Et c'est d'autant plus fort dans le cas de la Corée quand vous avez un pays qui est de taille relativement modeste. Quand vous avez une entreprise hyper puissante dans un pays petit, ça a un autre effet sur le plan politique qu'une entreprise super puissante ou hyper puissante aux États-Unis ou en Chine, bien sûr.
Virgile Chassagnon, vous en pensez quoi de Samsung, des menaces qu'elle pourrait faire peser sur l'économie de marché dans cette 12e économie mondiale ?
Je pense que le débat se situe là aujourd'hui, et indépendamment de Samsung, pour la plupart des pays développés. La question qui devient d'ailleurs une question que l'opinion publique a bien compris, et ça c'est plutôt récent, hein, et je pense que la crise sanitaire et l'interdépendance productive qu'elle a montré n'y est pas pour rien, c'est qu'il y a une relation effectivement qui est de plus en plus évidente entre le poids économique que représentent ces entreprises dans l'économie mondiale et le poids politique que ces entreprises ont aujourd'hui dans la plupart des pays développés. Et ce sont des entreprises dont le rôle politique est désormais reconnu par l'opinion publique. Et ça change tout. Je vous rappelle le mouvement des Gilets jaunes en France, c'est un mouvement social extrêmement violent, avec des conséquences extrêmement fortes. Il n'est pas dit que lorsque l'économie sera à nouveau sur de bons rails, on n'est pas un mouvement qui émerge en la matière. Et on peut penser qu'en raison de la crise sanitaire, en raison du fait qu'on a énormément parlé de ces firmes mondes qui ont accumulé davantage de profit au cours justement des confinements, eh bien ça devient un sujet sociétal. En somme, qu'on dise, ces entreprises, on l'a bien vu avec Amazon, hein, qui a été montré du doigt, qui a fait l'objet de campagnes de dénigrement, parfois justifiées pendant les confinements, eh bien on dit très clairement, on ne peut pas avoir une économie responsable, une économie de relance, si on donne autant de pouvoir à ces entreprises, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons politiques. Et ces raisons politiques, effectivement, aujourd'hui, elles sont plutôt bien commentées, que ce soit dans la plupart des pays développés, mais aussi tout simplement par les économistes. Puisqu'on a compris en économie, et ça, Joseph Stiglitz a très bien dit dans son dernier bouquin, qu'on ne pouvait plus dissocier l'économie du politique. Et ça, je pense que c'est très important, et je terminerai là-dessus. Pourquoi ? Parce que l'un des autres enseignements, et le président de la République Macron, en fait, dans ses discours, on le voit très bien, qui émane de cette crise sanitaire, c'est que les idées néolibéral, même pour ceux qui les tiennent, ne sont plus recevables. On sait aujourd'hui qu'on pourra faire prospérer le capitalisme que si on le protège de ses excès, que si on le protège de lui-même. Et donc protéger finalement le capitalisme de lui-même, c'est pour moi, au premier chef, eh bien, re-réguler ces entreprises qui constituent aujourd'hui des firmes mondes au niveau international.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, avec deux invités qui nous parlent des entreprises hyperpuissantes, des firmes mondes, Virgile Chassagnon d'un côté et François Lévesque de l'autre. Alors, une firme monde, on en a évoqué une avec Samsung. On va repartir sur le terrain avec un reportage que vous, auditeurs, avez peut-être déjà entendu sur les antennes de RFI. Début avril, on a appris l'échec de la tentative de syndicalisation des employés d'un entrepôt d'Amazon dans l'Alabama, aux États-Unis. Cette initiative avait reçu le soutien du président Biden et avait donné lieu à une campagne intense que la correspondante permanente de RFI aux États-Unis était allée couvrir. On écoute le reportage qu'Anne Corpé avait envoyé à l'époque.
We're not robots, we're not machines, we are humans.
Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des machines, nous sommes des humains, lance une militante armée de son mégaphone. Pendant un mois, les partisans de la création d'un syndicat ont tenté de mobiliser les employés d'Amazon. Ils dénoncent des conditions de travail éprouvantes, voire humiliantes. Linda Burns, employée sur le site de Bessemer.
On est traités comme des animaux. Vous voyez la chaleur qu'il fait dehors ? Il fait aussi chaud à l'intérieur, il y a l'air conditionné, mais ça ne fonctionne pas du tout. Et aussi, ils ne nous accordent que 5 minutes pour aller et revenir des toilettes, ça n'est pas possible. L'entrepôt fait la taille d'un terrain de football, ça prend 5 minutes pour y aller. Et quand tu reviens, tu as un message des ressources humaines sur ton écran qui t'annonce qu'ils veulent te parler. Ce n'est pas juste. On fait de notre mieux, mais ce n'est pas assez pour eux.
Plusieurs organisations de lutte pour les droits civiques se sont jointes au combat des employés d'Amazon. Eric Hall préside le mouvement Black Lives Matter à Birmingham.
La majorité des employés de l'entrepôt d'Amazon sont noirs, plus de 80% d'entre eux. Ces gens méritent d'être traités avec respect, dignité, comme des êtres humains. Quand le patron d'une société a gagné 80 milliards de dollars pendant une pandémie et que ses employés se battent pour mettre de la nourriture sur leur table et payer leur loyer, c'est un gros problème. Et donc, nous sommes là pour dire au monde que les travailleurs noirs comptent et nous demandons le respect qui nous est dû.
Chris England, président du Parti démocrate en Alabama.
C'est l'Alabama, un État où beaucoup de gens se sont battus contre des forces puissantes et pour gagner le droit d'être traités avec équité. Et c'est le même combat. Les gens doivent être respectés pour les efforts qu'ils font et pour leur travail.
Pour mener campagne contre la création d'un syndicat, le patron d'Amazon a engagé le cabinet de consultants le plus cher du marché, Mike Foster du RWDSU, le syndicat de la grande distribution.
Jeff Bezos essaye d'arrêter les syndicats parce qu'il veut continuer à faire ce qu'il fait en ce moment. Il dépense des millions contre nous au lieu de dépenser ces milliards pour aider les employés de ses entrepôts. Pourquoi il dépense son argent contre nous ? Tout ce qu'on essaie de faire, c'est d'aider.
Difficile de s'approcher de l'immense entrepôt de Bessemer. Les vigiles d'Amazon veillent et tout intrus sur le parking est rapidement expulsé. La police vient en renfort. Il faut aller s'installer au feu rouge à la sortie du site pour interpeller les employés. René achève sa vacation. Elle accepte de se confier uniquement si son anonymat est préservé.
Est-ce que c'est beaucoup de travail difficile ? Oui, mais je n'ai pas besoin d'un syndicat. Amazon n'a rien fait contre moi, à part m'offrir une assurance santé. Comment peut-on se plaindre quand on reçoit autant ? Je veux dire, il y a tant de gens qui n'ont pas de boulot. Si on n'est pas satisfait, c'est facile de prendre la porte. Je n'ai pas besoin de syndicat, je peux me défendre toute seule.
Deux jours avant la fin du vote, Bernie Sanders a fait le déplacement jusqu'en Alabama pour soutenir la lutte des employés d'Amazon, dont il a salué le courage, mais le résultat du vote à Bessemer reste très incertain.
Si incertain que Jeff Bezos l'a emporté, on le sait maintenant. C'était un reportage d'Anne Corpé dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. François Lévesque, est-ce que ces entreprises comme Amazon servent l'intérêt général ? C'est une question qu'on peut se poser en écoutant ce reportage.
Alors, ce qui serait intéressant, c'est de décomposer l'intérêt général en trois, en fait. L'intérêt des actionnaires, l'intérêt des consommateurs et puis l'intérêt des employés. Alors, il a été montré donc par les travaux économiques, qu'aux États-Unis, l'affaiblissement des syndicats, l'affaiblissement de la syndicalisation, eh bien, est un des facteurs explicatifs d'un partage de la valeur ajoutée plus favorable aux actionnaires et moins favorable aux employés. C'est-à-dire que les gains de productivité sont moins transmis aux salariés parce que les syndicats se sont affaiblis. Donc on a un rapport direct là entre eh bien, le bien-être des employés et le bien-être des actionnaires. Et puis, il ne faut pas oublier dans ce panorama, les consommateurs, ceux qui achètent des produits qui font appel aux services d'Amazon, eh bien, ils profitent indirectement des bas salaires et de mauvaises conditions de travail des employés. Pourquoi ? Parce que si les employés gagnent plus, eh bien, les coûts seront supérieurs, le prix sera supérieur et le consommateur, eh bien, il devra payer plus cher que ce qu'il achetait auparavant. Et donc, on a ce jeu à trois entre les actionnaires, les employés, les consommateurs. Et il ne faut pas oublier la responsabilité du consommateur, dans quelque sorte, ou sa schizophrénie.
Mais François Lévesque, si on augmente ces salariés d'Amazon, qui sont quelques centaines de milliers, voire un million dans le monde, et qu'on divise ces augmentations de salaire par le nombre incroyable de consommateurs qui ont recours aux services d'Amazon, l'augmentation des tarifs de cette société sera minime.
Oh, elle sera minime, mais vous savez, le calcul économique, vous raisonnez en marginal. Donc vous regardez, donc c'est effectivement si vous augmentez le niveau des salaires, ce qu'a d'ailleurs fait Jeff Bezos, hein, qui a mis en place un salaire minimum, un salaire qui est chez Amazon aux États-Unis supérieur au salaire minimum aux États-Unis. Donc, vous savez, les augmentations, elles peuvent être très sensibles. Et surtout, Amazon est une entreprise qui gagne très très peu d'argent, hein, qui gagne très peu d'argent dans sa partie logistique, dans sa partie service au consommateur final. Je parle pas.
Mais on a quand même appris que Amazon avait triplé ses bénéfices au cours du premier trimestre de cette année.
Absolument, mais si vous prenez les consommateurs qui payent 50 ou 100 dollars par an pour pouvoir être servis à 24 heures, qu'on appelle Prime, eh bien, dans sa logistique, pour servir ces consommateurs-là, pour leur envoyer une brosse à dents, s'ils veulent une brosse à dents, Amazon perd de l'argent. Amazon est un formidable gagnant d'argent sur sa partie informatique nuage, dite AWS, donc des services aux entreprises de traitement de données et de stockage de données. Là, c'est une machine à cash formidable. En revanche, Amazon, qui a une stratégie de croissance, casse les prix et parfois vend, et ça lui est reproché par les autorités de concurrence, va vendre en dessous de son coût de revient pour servir les consommateurs. Et bien évidemment, cette fuite en avant pour faire de la croissance, et ça a réussi jusqu'à maintenant et ça va visiblement continuer dans ce sens-là, et bien cette poursuite à la croissance, elle se fait en tenant les coûts des fournisseurs et des employés.
Virgile Chassagnon, vous pensez que ces entreprises servent l'intérêt général ?
Lors de votre deuxième question, vous m'avez permis de mettre en exergue ce qui, pour moi, constituait le débat. Et dans votre troisième question, Jean-Pierre Boris, vous me donnez cette excellente opportunité qui est de montrer les limites du débat. Là, je pense typiquement qu'on touche du doigt l'une de ces difficultés, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est pour ça que dans mes travaux, j'utilise le terme d'une régulation raisonnable, c'est-à-dire d'une régulation quand même basée sur des données scientifiques. Si je reprends votre extrait qui est relativement remarquable en termes d'information, moi, ce que je vois derrière, c'est indépendamment d'Amazon, le fait qu'effectivement la baisse de la syndicalisation aux États-Unis s'est caractérisée, et ça ce sont les études économiques qui le montrent, par effectivement une répartition de la valeur en faveur du travail qui est plus faible. Ça, vous voyez, ça c'est un fait global. Quand on regarde ensuite ce qui se passe au niveau de ces grandes entreprises, les entreprises superstars, les travaux économiques montrent très clairement, sans aucune ambiguïté, quoi. Ils montrent qu'au fur et à mesure du temps, ces entreprises ont eu des mouvements de concentration, sont devenus de plus en plus oligopolistiques, d'autres entreprises sont mortes, hein, c'est la règle de la survie en économie industrielle qui prévaut toujours, et en termes de valeur, ça s'est caractérisé par une part effectivement de la valeur ajoutée qui va au travail, qui est plus faible. Donc on voit bien qu'on a quand même deux mouvements qui sont associés, dans le cas de cet exemple-là. Un, le fait effectivement on voit bien que le fait de ne pas être syndiqué empêche tout de même, en termes de relations industrielles, un débat qui pourrait permettre non pas forcément, et c'est là-dessus où j'ai peut-être un point de désaccord, effectivement, hein, d'impacter directement les profits, c'est pas l'objectif. Hein. Ce que l'on souhaite, nous, économistes, en tout cas, et industriels attachés à la régulation, c'est pas vraiment s'intéresser au niveau de profit. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire en sorte, effectivement, que ces profits servent l'intérêt général. Pour moi, c'est ici qu'on doit mettre la régulation. Et pour moi, l'intérêt général, c'est pas la somme des trois intérêts des parties constitutives de l'entreprise. C'est pas la somme des intérêts des actionnaires, des consommateurs et des travailleurs. C'est tout simplement l'intérêt général républicain, c'est-à-dire le fait de servir la nation. Le but d'une entreprise, le capitalisme est ainsi, c'est d'être une institution des nations. Une institution du capitalisme, c'est forcément une institution des nations.
Donc, vous dites dans vos travaux que l'entreprise est un bien commun.
Je dis dans mes travaux que l'entreprise est normativement un bien commun privé. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir réguler. Et c'est comme ça qu'on pourra faire advenir des modèles socioproductifs pérennes. C'est-à-dire en considérant que ces profits doivent être distributifs et redistributifs. Et donc, pour moi, hein, l'objectif majeur à très court terme, c'est de faire en sorte que toutes ces entreprises ne contribuent plus à accroître les inégalités. C'est la première, je pense, obligation qu'on doit avoir en termes de politiques économiques. Et j'insisterai sur un point important qui rejoint aussi la question du rôle politique des entreprises, c'est qu'à l'heure actuelle, on a des différences culturelles en matière de régulation industrielle qui sont relativement fortes. Samsung, d'un côté, Apple, le conflit avec Huawei, de l'autre, et puis quand même, les autorités de la régulation européenne, qui, depuis plusieurs années, sont beaucoup plus attentives en la matière. L'Europe est en retard en matière de grandes entreprises hyperpuissantes au niveau mondial, mais l'Europe est plutôt en avance en matière de re-régulation intelligente de ces entreprises. L'économie considère que plus il y a de la concurrence, plus on peut contrôler les profits, plus les tarifs sont bas et plus les consommateurs, effectivement, ont un surplus important, c'est-à-dire récupèrent davantage en termes de bien-être. Donc, la régulation, telle qu'elle a été créée, y compris par les premières lois, notamment celle du sénateur Sherman aux États-Unis, c'était quoi? C'est de dire on doit réguler quand les prix sont trop élevés et quand les consommateurs sont lésés. Et le point important aujourd'hui, et l'affaire Amazon en cours d'investigation au niveau de la Commission européenne est vraiment significative de cela, c'est qu'on se rend compte que, eh bien, l'abus peut être autre que simplement un markup, c'est-à-dire que simplement une déconnexion trop forte du prix par rapport au coût des entreprises. On voit bien, là, c'est la puissance algorithmique qui devient anticoncurrentielle en tant que telle. Et ça, c'est une grande nouveauté, et je pense que typiquement, réguler cette puissance algorithmique, c'est un moyen de mieux axer le rôle de ces entreprises en faveur de l'intérêt général.
François Lévesque, j'aimerais vous entendre sur un mot que Virginie Chassagnon a employé, je crois, qui est le mot inégalité. Est-ce que ces entreprises sont des vecteurs d'inégalité, ces entreprises hyperpuissantes?
Alors, les entreprises hyperpuissantes creusent les inégalités de plusieurs façons. Une façon pas très connue, en fait, c'est elles creusent les inégalités salariales. Tout le monde a en tête l'idée que, eh bien, depuis plusieurs dizaines d'années, il y a un écart salarial de plus en plus grand entre les dirigeants des entreprises qui se payent de plus en plus et qui n'augmentent pas le salaire des employés. Et donc, une inégalité croissante des salaires par
ce mécanisme. Vous disiez pourtant que Jeff Bezos avait augmenté les salariés d'Amazon.
Oui, mais ça c'est aussi la politique de l'entreprise qui répond aux médias. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, cette idée que les salaires se creusent parce que les patrons se payent de plus en plus et n'augmentent pas le salaire des ouvriers, eh bien, c'est pas ça. Ce qui a creusé les inégalités salariales pour deux tiers, donc c'est la force principale, c'est le fait que les entreprises qui sont ces entreprises hyperpuissantes superstars, eh bien, elles payent de mieux en mieux leurs employés. Pour donner une image, imaginez que l'économie se résume au football, eh bien, le phénomène fondamental des dernières décennies, il n'est pas que l'écart entre le salaire du meilleur footballeur du Paris Saint-Germain et de celui qui est le moins payé au Paris Saint-Germain, c'est pas cet écart-là qui s'est accru le plus. L'écart qui s'est accru le plus, c'est entre le salaire moyen du joueur du Paris Saint-Germain et le salaire moyen d'un club de seconde division ou même de Saint-Étienne ou d'en avant Guingamp. Donc la force qui tire, qui creuse les inégalités salariales, c'est principalement ça. C'est que vous avez des entreprises qui réussissent et qui payent et qui proposent des salaires moyens de plus en plus élevés et l'écart se creuse par ce mécanisme-là. C'est le salaire moyen du joueur du PSG qui s'écarte de plus en plus du salaire moyen des autres clubs. Donc là, les entreprises, si vous voulez, qui réussissent, eh bien, elles payent mieux leurs employés et beaucoup par rapport aux autres. Et c'est ça, en ça, les entreprises hyperpuissantes creusent les inégalités salariales. Et puis après, il y a d'autres aspects. Mais voilà, c'est une responsabilité, ou en tout cas, c'est un mécanisme bien compris, bien mis en évidence aujourd'hui, de creusement des inégalités par finalement les entreprises qui réussissent le mieux par rapport à celles qui ne réussissent pas.
Passons à une autre étape de cette émission. Ces firmes mondes, ces hyper-entreprises nous ont habitués à jouer les sauts de frontières. Elles s'installent où leurs intérêts les mènent. Parmi les critères qui entrent parfois en ligne de compte, outre le marché, il y a l'importance des impôts. Ces sociétés appellent cela du frottement fiscal. On parle d'optimisation fiscale. Moins il y a d'impôts et mieux c'est. Certains États en ont fait un axe de leur politique pour faciliter l'arrivée des capitaux. Mais la volonté de Joe Biden et de quelques autres d'imposer partout dans le monde un impôt minimum de 21% pour les entreprises complique cette stratégie. Exemple avec ce qui se passe et se dit à Port-Louis, la capitale de l'île Maurice. C'est un reportage Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs, signé Abdoulaye Rali.
Le secteur financier de Maurice, avec ses 19 banques et 190 sociétés de gestion de fonds, est le champion de la performance économique. Avec seulement 8700 employés, il contribue à 11,8% à la production nationale. Son poids dans la richesse nationale est comparable au secteur manufacturier qui emploie plus de 100 000 personnes. Mais le projet d'une taxation mondiale minimal de Joe Biden vient toucher à la substance même de ce centre financier mauricien. Rajiv Servansingh, dirigeant de la société Mind Africa, est parmi les premiers observateurs économiques à avoir sonné l'alarme.
Le moteur de notre centre financier, c'est l'arbitrage fiscal, c'est-à-dire que les sociétés situent leur business dans des juridictions où ils payent moins d'impôts, tout en ayant certaines sécurités, vous savez, en termes de stabilité politique, etc., là où Maurice s'est positionné. Donc si demain, toutes ces grosses multinationales auront à payer 21% d'impôts, ça risque d'avoir des conséquences extrêmement graves pour notre centre financier.
Plus de 70% des opérateurs de la plateforme financière mauricienne gèrent des fonds étrangers attirés par une faible fiscalité. Ce modèle d'affaires subit un vent de changement. La fin d'un traité avantageux avec l'Inde, il y a 4 ans, a considérablement réduit le flux de capitaux et la décision l'année dernière du GAFI de placer Maurice sur la liste des juridictions financières à haut risque a semé la panique. Le projet de Joe Biden sera la goutte de trop, estime Kichong Lee Kong-Win, économiste et ancien président de la Banque d'État.
Je crois que malgré le fait que la situation a été déjà rendue défavorable à l'île Maurice par toutes les actions de la GAFI, le CDE et autres, maintenant, cette mesure de Biden, si vraiment c'est très efficace et effectif, va donner le dernier coup de massue à notre secteur financier à l'île Maurice.
Kichong Lee Kong-Win prend très au sérieux le projet de taxation mondiale minimale parce que la nouvelle administration américaine va balayer devant sa porte.
C'est vraiment un gros morceau venant de Biden lui-même, dont l'État, Delaware, est connu comme le paradis fiscal le plus notoire du monde. S'il veut vraiment taxer les multinationales et extraire tout ce surplus de profit, alors c'est vraiment un gros morceau.
Les jours des juridictions en fiscalité légère comme Maurice sont-ils comptés? Notre observateur économique, Rajiv Servansingh, craint que le projet de Joe Biden prenne forme très vite.
Parce que déjà, Biden a demandé à la CDE de s'y atteler. Deuxièmement, le CDE elle-même, depuis pas mal de temps, est en train de ruminer sur cette question donc d'impôts. Le ministre des Finances français a déjà annoncé qu'il est tout à fait d'accord à soutenir cette mesure, tout comme le ministre des Finances de l'Allemagne. J'ai beaucoup de crainte que cette mesure voie le jour avant la fin de cette année.
Une taxation minimale mondiale sera en quelque sorte le coup de grâce à un modèle de fiscalité légère qui a fait le succès du centre financier mauricien. Un vent de panique souffle ici.
C'était un reportage de Abdoulaye Erali à Port-Louis, à l'île Maurice. François Lévesque, vous pensez que c'est inquiétant pour ces petits pays qui font de l'optimisation fiscale un des axes de leur bien-être, de leur produit intérieur brut?
Avant de vous répondre, deux remarques. C'est pas le projet de Biden, là. Il faut un peu remettre les choses en place. Cette idée de taxer les multinationales, ce sont les efforts de l'OCDE. C'est un effort multilatéral depuis plusieurs années. Et c'est pas un travail qui a été ruminé par l'OCDE. Et il se trouvait que Trump avait bloqué cette machine qui faisait presque l'unanimité pour instaurer une taxe minimale sur les multinationales. Alors, on ne prête qu'aux riches. Et Joe Biden a le mérite d'avoir débloqué débloquer cette affaire. Mais c'est pas l'Amérique là qui sauve le monde et Joe Biden qui sauve le monde en instaurant une taxe auquel personne n'avait pensé. C'était vraiment un point de déblocage simplement. Donc je pense que c'est important parce que c'est une réussite du multilatéralisme en fait et pas simplement l'Amérique qui sauve le monde.
C'est pas
la deuxième
zéro.
Remarque, c'est que cette taxe multinationale sur les multinationales, on parle de 21%, eh bien elle montre bien maintenant qu'on a changé d'époque. On a changé d'époque, pourquoi ? Parce que eh bien, les États, les grands États, les États-Unis, mais aussi la Chine et puis l'Europe, sont en train de reprendre en main justement les sorts des multinationales et des firmes hyperpuissantes. Il y a une reprise en main du pouvoir par les grands États de ces entreprises. Et vous voyez bien que l'idée de multinationales qui pouvaient continuer de faire ce qu'elles voulaient, notamment ne pas payer d'impôts sur leurs profits parce qu'elles évitaient la fiscalité en utilisant des paradis fiscaux, eh bien, l'État reprend la main. C'est un bon exemple de ce changement historique qui est en train de se produire. Les États reprennent la main.
Vous utilisez le terme de nationalisme technologique.
Oui, le nationalisme technologique, là, c'est les États reprennent la main et on voit, il y a un autre mouvement, le mouvement c'est la fragmentation du monde, la politique et géopolitique, avec ce conflit et ces conflits entre la Chine et commerciaux et aussi politiques et idéologiques entre la Chine et les États-Unis. Et donc, la conséquence de ce conflit, c'est une fragmentation technologique, un découplage technologique, c'est cette idée que, eh bien, tel logiciel, le système d'exploitation ou autre pourrait être utilisé aux États-Unis, mais ne le sera pas en Chine et inversement. Et vous voyez l'affaire, là c'est l'affaire Huawei, c'est-à-dire les produits Huawei sont en Chine et dans d'autres pays, mais ne sont pas aux États-Unis, ne sont pas en Angleterre, ne sont pas en Australie, etc. Et donc le monde technologique se fragmente avec des technologies qui seront chinoises et utilisées dans l'ère d'influence chinoise, et des technologies USA, américaines, et puis j'espère aussi des technologies européennes. Donc le monde de la technologie, l'idée que tout le monde utiliserait le même logiciel, que tout le monde utiliserait le même système d'exploitation, que tout le monde utiliserait les mêmes appareils, eh bien, c'est une idée qui éclate.
Vous parlez de démondialisation, François Lévesque ?
Bien sûr, parce qu'il y a d'une part ce découplement technologique, et d'autre part, ce à quoi on s'attendait dans la poursuite de l'ancien monde, c'est que ces entreprises hyperpuissantes continuent de conquérir les pays dans lesquelles elles n'auraient pas encore mis le pied, continuent de croître et de s'internationaliser, de se multinationaliser. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que oublier l'idée que Alibaba puisse s'implanter aux États-Unis, oublier l'idée que Amazon puisse s'implanter en Chine. Très vraisemblablement, Microsoft est menacé en Chine, mais vous savez qu'en Chine, eh bien, il n'y a ni Facebook, ni Twitter, ni Google. Et donc, la démondialisation, c'est aussi, donc, c'est lié à ces conflits géopolitiques, et puis c'est lié aux risques géopolitiques, mais aussi aux risques sanitaires, bien sûr. De quoi parle-t-on ? On parle là de raccourcissement de ces chaînes d'approvisionnement globales, de cette idée que pour construire une voiture ou un téléphone portable, eh bien, vous avez des pièces qui viennent du monde entier. Et eh bien là, non, les chaînes se raccourcissent, les chaînes d'approvisionnement pour construire des voitures ou pour fabriquer un téléphone, eh bien, elles se raccourcissent et elles se régionalisent. C'est-à-dire, les chaînes se feront en Asie, d'autres chaînes se feront dans l'ère des États-Unis, d'autres chaînes dans la région Europe. Et ça fait partie, et c'est un signe de la démondialisation, et donc de la fin de la globalisation, de la fin de cette idée que, eh bien, tous les habitants de la planète utiliseraient les mêmes technologies, achèteraient les mêmes biens, seraient servis par les mêmes entreprises et que, d'une certaine façon, la politique disparaîtrait. Non, la politique réapparaît, reprend en main, les grands États reprennent en main la destinée, leur destinée, leur souveraineté technologique et économique.
Vous partagez ce point de vue sur la démondialisation, sur la reprise en main par les forces politiques nationales de ces grandes entreprises, Virgile Chassagnon ?
Deux éléments de réponse, selon moi. Premier élément de réponse, il est certain qu'au cours de la dernière décennie, et qui plus est des cinq dernières années, On a eu des volontés de fermeture des frontières, d'un point de vue économique et technologique, des volontés de protectionnisme, et puis des considérations géopolitiques qui ont fait qu'on a eu une tendance, effectivement, à déglobalisation sur des produits high-tech qui ont des intérêts économiques et politiques majeurs. Ça, c'est indéniable. Huawei, effectivement, c'est une illustration parfaite pour nos étudiants pour comprendre cela. Le deuxième point, en revanche, c'est que je ne pense pas qu'on puisse vraiment dire que nos États avaient perdu le pouvoir sur ces grandes entreprises, sur ces entreprises géantes. J'insisterai sur deux points qui vont aussi répondre à une question que vous avez posée sur la question de la fiscalité. Le premier point, c'est que l'immensité de ces entreprises, que ce soit en termes de capitalisation, de chiffre d'affaires, en termes de taux de profit, c'est quelque chose de très récent. Ça a moins de deux décennies. Donc c'est quelque chose qu'il faut intégrer. On sait que la politique économique, que la politique industrielle et que les politiques de régulation prennent toujours du temps et il y a toujours un temps effectivement de décalage entre le moment où on voit apparaître des phénomènes industriels et le moment où on va tenter de les réguler. Donc ce qu'on a vu en fait au cours des dernières années, c'est l'accentuation des écarts. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui a fait que l'opinion publique et que les politiques s'y intéressent de manière frontale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu un décrochage, un écart de plus en plus fort. On parle beaucoup aujourd'hui avec la courbe épidémique de courbe exponentielle. On a eu cette tendance au niveau de la capacité d'hyperpuissance économique de ces entreprises. Et c'est à partir de là, effectivement, où on a eu les débats, notamment sur la taxe GAFAM, sur effectivement le taux minimum d'imposition de la production. Et ce que, effectivement, on peut quand même dire maintenant, c'est que, en raison de la crise sanitaire, mais aussi tout de même en raison du rôle absolument incroyable, moi, j'avais pas du tout envisagé autant de volontarisme en si peu de temps de Biden. Tout ça a permis quand même, effectivement, de remettre au niveau international, sur le devant de la scène, les débats enclenchés depuis de nombreuses années par l'OCDE, mais aussi par des ministres des ministères de l'économie des pays européens. Et par conséquent, ça a permis de faire avancer les choses. Et ça, typiquement, c'est lié à Biden et c'est lié aussi à la crise sanitaire. Vous savez, on a beaucoup parlé du monde d'après. Beaucoup de journalistes m'ont interrogé sur ce qu'était le monde d'après. J'ai toujours été très sceptique. J'ai jamais cru au grand soir. Mais ce que l'on observe aujourd'hui, ça reste une opportunité unique de revoir les règles de régulation du capitalisme. Je pense qu'on doit sauver quelque part le capitalisme et qu'on peut en faire un nouveau régime de croissance. 6 000 milliards si on prend l'ensemble des projets d'investissement de Biden. On a les projets européens, on parle de 750 milliards d'investissement dans les plans de relance, 100 milliards en France, 130 sous-préfets dédiés à la relance, 75% des projets qui sont déjà bien consolidés. Tout ça, ce sont des choses extraordinaires qui peuvent nous permettre de revoir notre manière de réguler le capitalisme et de l'orienter vers des finalités d'intérêt général. C'est ça pour moi qui compte le plus. Et effectivement, la fiscalité, elle compte. L'évasion fiscale, on reste dans la légalité. Ce sont des pratiques d'optimisation. Donc ça, c'est un point important. Parce que ça veut dire qu'on a un monde économique qui sait s'affranchir des frontières régulatoires, qui sait utiliser les vides juridiques. Et ça, c'est ce qui a fait aussi l'immensité de ces entreprises. C'est une des thèses que je défends dans mon bouquin, c'est que ce qui fait la particularité et les points communs de ces entreprises, ce que j'appelle les pires mondes, c'est leur régime d'accumulation du capital et, par conséquent, leur capacité à s'affranchir des frontières régulatoires. Donc la fiscalité, c'est un élément fondamental. On doit avoir des fiscalités distributives, redistributives. On doit absolument renouer le dialogue social et la qualité des négociations sociales dans les entreprises, et notamment dans ces grandes entreprises. Et on doit aussi donner plus de pouvoir aux employés. Pour les consommateurs, c'est beaucoup plus délicat, selon moi. Mais c'est aux employés qu'on doit donner plus de pouvoir. On l'a vu avec l'affaire Danone. On n'est pas dans une entreprise qui est considérée comme un titan. On est dans une grande entreprise dont le PDG a souhaité justement anticiper ce que sera la dynamique d'accumulation du capital à venir, donc en étant plus responsable, et qui a été remercié à la suite d'un conseil d'administration où les salariés avaient voté contre.
Virginie Chassagnon, il faut en terminer parce que on arrive au bout de cette émission, donc je retiens fondamentalement votre optimisme, François Lévesque, Virginie Chassagnon, il vous semble qu'on arrive à reprendre en main ces grandes entreprises qui semblent avoir échappé à toute régulation, à tout pouvoir politique. Cette émission est donc terminée. Merci à vous deux, François Lévesque, Virginie Chassagnon, d'avoir accepté l'invitation des RFI. Les mentions de vos ouvrages respectifs se trouvent sur la page web des Codiciers Co, d'ailleurs sur le site RFI.fr. Merci aux collègues de France Bleu La Rochelle qui ont accueilli François Lévesque. Et pour nos podcaster le plus simple, c'est l'application Pure Radio de votre smartphone. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
tout à l'heure sur RFI.